bonjour, vous écoutez Radio FM Plus 91 FM. Le Fil du Fer accueille Sylvie Baudineau, une anthropologue qui a bâti à partir de ruines sa maison. Bonjour Sylvie.
Bonjour Lionel.
Où êtes-vous Sylvie et que faites-vous dans la vie?
Où est-ce que je suis géographiquement?
Dans votre vie.
Ah, où j'en suis dans ma vie, à peu près aux trois quarts, on dirait, par rapport à la moyenne de la vie ordinaire d'une femme en France. Donc, pas très loin de ce qui pourrait être l'âge de la retraite. Et ce que je fais, mais comme vous l'aviez dit, je suis chercheuse anthropologue, ça n'a pas été mon seul métier, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Indépendante, c'est un terme qui a l'air prestigieux comme ça, mais c'est surtout qui veut dire que je ne suis pas professeure dans une université ou chercheuse dans un institut de recherche, et je suis la plupart du temps chercheuse sous des formes de consultation ou de collaboration avec des projets de recherche. Voilà.
Nous enregistrons chez vous. Pourriez-vous décrire les pièces à vivre dans lesquelles nous nous trouvons ?
Là, on est dans la cuisine, qui est une petite pièce qui se trouve au-dessus d'une citerne d'eau, de réserve d'eau de pluie, pour la maison. Donc, c'est une maison ancienne dans laquelle il y a plusieurs parties qui ont été gardées. Et en face de moi, il y a une porte ouverte avec une terrasse qui est dehors. Voilà, donc on est en communication avec le dehors, juste dans cette pièce-là. Et derrière moi, il y a une grande, grande pièce à vivre. Voilà, on est dans une maison sous une voûte de pierre, juste pour tracer un petit peu où on est.
Je vous sais sensible aux lieux, à leur faune, à leur flore, à leur poésie. Vous photographiez beaucoup votre environnement. Sans dire le nom du département, de la zone, du hameau où nous sommes, mais en citant les arbres, les bêtes, la vie des femmes et des hommes ici, que dites-vous de l'endroit où vous vivez ?
Sans nommer le département, c'est le plus petit département de France. Donc vous chercherez. Je suis sur un endroit en plus où quand des amis qui ne connaissent pas la France me demandent « Tu es française, tu vis à Paris ?» Je dis « Non, je ne vis pas à Paris. Je vis dans le trou du cul du monde, en France. » C'est-à-dire un endroit qui est isolé, qui est loin de toute grande ville et qui est même assez loin, on va dire une certaine distance, même des petites villes où on peut se ravitailler, mais presque au milieu de la nature. Enfin, bon, il y a quelques autres maisons dans le hameau, mais on est vraiment... voilà. Et donc, par exemple, si je regarde par la porte, là, par là, qui est ouverte sur la terrasse, il y a des pins. Qui est vraiment un arbre caractéristique d'ici, mais il y a aussi, si je regarde un petit peu plus loin, des chênes, des érables, des peupliers, du buis, il y a tout un tas d'arbres, d'arbustes qui peuplent cette zone, et puis des jeunes, en ce moment il y a on est en tout début août, et on a des jeunes portées d'oiseaux qui traversent le ciel tout le temps.
C'est un lieu très très beau en effet. Pour vous, Sylvie, qu'est-ce qu'habiter ?
Ah, habiter, c'est être quelque part. Pour moi, c'est être et il y a quelque chose comme rester. D'ailleurs, en québécois, on dit rester quand on demande à quelqu'un où tu habites, où tu restes. Et donc, il y a quelque chose d'occuper un espace aussi, de le faire sien. Pour moi, habiter, c'est transformer l'espace où je suis aussi. C'est pas seulement y être présente, c'est ou pour y être présente. Du fait d'y être présente, je le transforme. Je suis dedans, donc je suis forcément en échange avec et le bâtiment, et les arbres, et les oiseaux, et tout ça, parce que c'est là où j'habite et c'est là où je suis en interaction, et avec les humains, aussi les quelques humains qui sont autour.
Quelle est l'histoire de votre maison ?
C'est un ancien bâtiment agricole qui est composé d'une ancienne étable. Je suis dans une région qui était quand même vouée beaucoup, une région pastorale de brebis, qui a changé un peu, mais qui était vraiment en essentiel cela. Et pourtant, ce n'est pas au-dessus d'une bergerie, c'est au-dessus d'une étable, donc qui abritait probablement des bœufs qui tiraient les remorques ou les engins de l'époque. Et donc il y avait une étable en dessous, il y avait une grange à côté, donc à foin et à paille peut-être. Et puis une citerne d'eau. Donc c'est un bâtiment de fonction, c'est-à-dire personne n'habitait dans ce bâtiment à part des animaux. Ce qui est assez appréciable, donc il y a sur le porche une inscription qui est 1792. Donc c'est vraisemblablement un bâtiment qui a été fait en plusieurs fois. Donc est-ce que 1792, il est probable que ce soit la dernière fois que ça a été travaillé avant que moi je reprenne. Et le fait qu'il y ait que des animaux qui ont habité cette maison, c'est un côté intéressant. D'abord parce que quand je reviens après pas mal de temps, les murs sentent encore la paille. Donc la maison sent encore la paille quand il n'y a pas toutes les odeurs de cuisine et tout ça. Et aussi parce que c'est une maison où il n'y a pas eu de conflit de famille ou de quoi que ce soit. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ces murs qui sent le moisi d'histoires qui ne sont pas réglées, qui ne m'appartiennent pas du tout parce que je ne suis pas originaire d'ici. Donc... il y a quelque chose de plutôt pacifique en fait de vivre dans une maison où ont vécu des bœufs.
Et depuis quand est-ce que vous habitez cette ancienne bergerie ?
C'est depuis. Donc je l'ai achetée en 1997, donc c'était une ruine à l'époque, et j'ai commencé à l'habiter en 2004, donc ça fait 20 ans.
Pour vous qui voyagez beaucoup pour votre travail, comme nous le verrons dans le prochain numéro de la série du Fil du Fer qui vous est consacré, quelle importance a le fait d'avoir un lieu à soi ? Vous en avez un peu parlé, mais peut-être prolonger l'idée.
Oui. En fait, je vais remonter un petit peu à mon histoire personnelle. Je suis née en Afrique. Mes parents vivaient en Afrique quand je suis née, en Côte d'Ivoire notamment. Et je suis venue vivre en France à partir de l'âge de 8 ans. Et j'étais travailleuse sociale, animatrice socioculturelle, ça c'était mon métier. Et j'ai eu rapidement envie de revoyager, de repartir ailleurs qu'en France, d'aller dans ce qui était mon quotidien avec des gens qui n'étaient pas français. Mais pas en étant touriste, je ne sais pas être touriste, je ne sais pas, vraiment pas faire. Donc, étant travailleuse sociale, pour moi, l'intervention humanitaire était le moyen le plus proche et ce qui m'intéressait le plus. Donc, je suis partie à l'étranger et mon premier séjour était un séjour de 2 ans qui s'est prolongé en 3 puis 4. Et quand je suis revenue en France, j'ai décidé qu'il me fallait chercher un lieu à moi plutôt que d'avoir mes affaires dans des cartons après avoir déménagé, etc., pour pouvoir repartir. Mais pour moi, l'essentiel, c'était vraiment d'avoir un lieu qui soit à moi, ou d'où on ne puisse pas me chasser, bon, sauf si vraiment je faisais des choses incohérentes. Et en fait, beaucoup de gens à l'époque m'ont dit, mais si tu n'as pas peur, si tu t'ancres dans une maison, notamment une maison, je ne sais pas pourquoi, dans l'imaginaire, une maison plus qu'un appartement, ça t'ancre, probablement à cause du sol autour. Tu n'as pas peur de plus repartir ? Je dis au contraire, c'est-à-dire je pourrais repartir l'esprit tranquille si je sais que j'ai un endroit où revenir. Et donc voilà, là, c'était la raison principale de ma recherche d'un lieu à moi.
Continuons. Choisir un lieu où vivre, est-ce une manière d'instituer sa vie, de la couronner, de la protéger ?
Rien de tout ça. pas dans ces mots-là, en tout cas. Peut-être dans la suite de ce que je disais tout à l'heure, de la protéger d'une certaine manière, c'est-à-dire de protéger ma liberté avec une chance inouïe d'être française qui voyage. C'est, à part quelques temps d'attente et quelques papiers envoyés, c'est facile pour moi d'obtenir un visa pour presque partout dans le monde et pour revenir ici aussi, puisque je suis citoyenne française. Donc... mais voilà, être sûr que quand je reviens, même si j'ai pas d'argent, j'ai un lieu où je peux habiter. J'ai pas besoin de donner 3 mois de caution et des garanties à quelqu'un qui va me louer un lieu. Donc ce serait une certaine protection à ce niveau-là. Et puis bon, voilà, littéralement, une maison, ça me protège de la pluie, du froid, du chaud, de tout ça. Quels étaient les deux autres...
Instituer sa vie et couronner sa vie.
Ça ne l'institue pas, mais ça en fait partie. Bon, notamment parce que le choix d'être dans une maison où il y a eu des travaux à faire que j'ai fait faire à mon goût, ça l'institue d'une certaine manière. Ça institue un quotidien, ça institue une manière de vivre, ça fait pas partie de mon identité. C'est-à-dire quand, on en reparlera peut-être, mais quand j'ai habité ailleurs pendant des temps courts, quelquefois pour le travail ou plus long, j'y pensais plus. Ça, c'était plus là, ça faisait plus partie de ma vie, ça faisait partie d'un possible. Je peux rentrer chez moi quand je veux. Mais c'était pas dans mon esprit. J'étais tout à fait capable d'être ailleurs, ailleurs que dans mes meubles, ailleurs que dans cette maison, etc. Donc ça l'institue pas en soi, mais bien sûr elle est faite à ma patte parce que c'est voilà, donc une petite partie comme ça.
Et alors quelle est cette patte? Si je regarde, il y a des livres, il y a des gravures, il y a des tableaux, des sculptures, des mobiles, des paniers suspendus, des meubles en bois que vous avez fabriqués. Vous êtes aussi menuisière, charpentière. Donc votre identité, n'est-elle pas aussi dans le bois, dans ces meubles-là qui sont les vôtres, en plein sens du terme?
Oui, je crois que, en fait, quand j'étais jeune et j'ai choisi mon métier, et puis que je ne regrette pas du tout, qui était le travail social et qui a bifurqué ensuite vers une longue carrière humanitaire qui s'est poursuivie par le travail de recherche en anthropologie. Mais je dis toujours, maintenant que je le vois de plus loin, que si j'avais su, j'aurais peut-être fait un travail de métier d'art, ou de métier, peut-être pas d'art mais d'artisanat, parce que le travail de la matière ou même le travail d'un jardin, ou j'en ai besoin, ça fait partie de ma vie, de transformer les choses et d'avoir vraiment les mains soit dans la terre, soit sur le bois, soit sur des outils, et l'utilisation d'un outil et le geste et la rencontre avec la matière que ça implique. Donc effectivement, ça fait partie de ma vie et ça remplit ce besoin de faire que j'ai. L'hiver dernier, par exemple, j'ai décidé, j'avais commencé des travaux de sculpture, puis peut-être pour repousser un petit peu à me lancer dans la suite de travail de sculpture que j'avais commencé, j'ai décidé qu'il me fallait un atelier, un vrai, pas seulement un établi avec un tas d'outils qui étaient dans une boîte à outils. Et donc j'ai passé mon hiver, je n'ai pas beaucoup travaillé à l'extérieur de France cet hiver, j'ai passé mon hiver à me construire, à m'établir un atelier de menuiserie en bas, dans la maison. Donc évidemment, le fait de le faire, ça, c'est moi qui... Voilà, j'ai ce rapport à ma maison qui s'est réalisé dans le faire, et donc ici il y a des sculptures qui sont miennes, il y a aussi plein de sculptures qui viennent d'ailleurs.
Et, qui viennent d'où ?
Notamment du Québec. J'ai passé un temps assez long au Québec et à Québec même, dans la ville de Québec. J'ai rencontré dans plusieurs circonstances, mais la ville de Québec rend les choses faciles. C'est une petite ville avec beaucoup d'artistes. Donc si on cherche un peu, on rencontre facilement des artistes, et notamment avec des artistes de sculpture ou de peinture ou de musique. Mais voilà, donc c'est des gens que je connais plus ou moins pour certaines d'entre elles, ou beaucoup de gravures ou de peintures qui sont aussi faites par des artistes québécois. Mais voilà, c'est ça. Et puis d'autres, il y a certainement des... Il y a aussi beaucoup de choses que j'avais ramenées avant, puisque quand je travaillais à l'étranger, beaucoup de tissus congolais, guatémaltèques. Je passais 4 ans au Guatemala, j'ai eu une période de ma vie où ma maison étant vide ou encore en projet... Quand j'étais sur place et que je travaillais, j'achetais des choses pour ma maison. Maintenant, c'est fini, elle est pleine. Je cherche plutôt à vider ou à épurer. Mis à part les livres dont j'arrive pas à me défaire, j'ai des livres, évidemment, dans la grande pièce, il y en a, mais il y en a dans toutes les pièces de la maison. Toutes, sans exception.
Nous avons parlé de l'intérieur et vous avez parlé de l'extérieur du jardin. Nous sommes... sur une terre maigre, je vais la qualifier de maigre, il y a les élevages de brebis, de vaches, un peu d'agriculture. Et vous, quel est votre jardin alors? Qu'est-ce que vous avez fait de votre extérieur?
En fait, j'ai découvert il y a quelques années, mais c'est pas ça qui a forgé ma manière de faire du jardin, mais j'ai découvert il y a quelques années par Gilles Clément que le jardin, en fait, je ne sais pas si c'est l'étymologie ou la manière dont on définissait le jardin auparavant,
mais
c'est un espace clos.
Pardon, qui est Gilles Clément?
Gilles Clément, c'est un jardinier, mais c'est aussi un paysagiste de métier, qui a beaucoup pensé et réfléchi le jardin. Et qui est auteur de, enfin créateur de plein de jardins différents. Il y en a, je sais plus les noms, mais il y en a, je sais qu'il est dans le sud de la France. Il y en a à Paris, il y a Saint-Nazaire. Et lui, il habite, je crois que c'est dans la Creuse, pas très loin de la Creuse justement. L'œuvre la plus connue, je pense, c'est un film qui s'appelle Le Jardin en mouvement, ou peut-être même un écrit de Gilles Clément. Et il définit le jardin comme un lieu clos. Voilà, donc un lieu où on fait ce qu'on veut. Et si on est, si on vous, maintenant, si vous lisez des livres d'anthropologie, notamment d'ethnologie, sur la manière dont les gens habitent leur jardin, c'est fascinant parce que effectivement, c'est un lieu à soi. Ici, il y avait mon premier jardin, parce que j'ai maintenant deux jardins. Mon premier jardin était un ancien jardin qui était complètement en friche, mais c'était un lieu qui avait été jardiné, donc qui avait été d'abord qui était dénué de rochers en dessous à fleurs, puisqu'on est quand même sur du rocher beaucoup, donc il y avait une petite épaisseur de terre, il y avait eu du fumier de brebis probablement qui avait disparu depuis longtemps, mais donc qui ne m'appartenait pas, mais qui m'a été prêté par les propriétaires. Maintenant je l'ai acheté, donc il m'appartient. Et que j'ai investi, que j'ai défriché à plusieurs reprises, etc. Et donc ça, c'est le premier jardin qui est le jardin le plus proche de ma maison et qui est devenu le plus riche.
On en reparlera tout à l'heure, car c'est le moment de la pause musicale. Sylvie, vous avez choisi Lighthouse de Patrick Watson. Nous l'écoutons. Vous êtes sur le fil du fer, sur Radio FM Plus 91 FM. Nous continuons la conversation avec Sylvie Bodineau, anthropologue, qui vit dans sa maison, une ancienne bergerie qu'elle a reconstruite. Sylvie, nous avons un peu parlé avant la pause musicale de votre jardin. Est-ce que vous pourriez développer, continuer vos propos sur ce travail-là? Et qu'est-ce que c'est que faire d'une terre maigre une terre riche en légumes, en fruits?
Alors je parlais du premier jardin qui est en bas, donc qui est proche de la maison, qui a été un jardin auparavant, et que mon premier travail était de le défricher, de le mettre en forme, refaire les murs autour, les murs de pierre. Et j'ai aussi, bien plus tard, notamment au moment du deuxième confinement, où j'étais revenue en France, j'ai construit un jardin, puisqu'il n'y avait rien d'autre à faire. j'ai fait 60 mètres de murs de pierre sèche, donc qui entoure un jardin un peu plus loin de ma maison, en haut, c'est le jardin du haut, qui est un peu plus rocailleux, qui n'avait pas ce passé de jardin où j'avais planté juste il y a très longtemps une butte et deux pêchers qui restaient là. Et donc pour les deux jardin. Alors j'ai fait beaucoup d'apprentissage dans le premier parce que je suis passée par on n'a pas besoin d'arroser ou des manières, donc je faisais le jardin au sol, maintenant je l'ai un peu soulevé tout, mais je dirais que mon idée générale pour ces deux jardins qui a été constante, c'est à la fois il y a beaucoup de choses dedans. Il y a d'abord le faire le jardin qui est complètement presque thérapeutique, c'est-à-dire dès lors où je suis d'humeur à faire du jardin, à mettre mes mains, que ce soit pour piocher, pour défricher ou juste pour faire un petit semis tout fin quelque part, il y a une espèce de mettre les mains dans la terre, il y a une espèce d'antidépresseur qui est là, et en fait de s'ancrer dans le présent, s'ancrer, c'est vraiment s'enraciner comme les choses que je pose au jardin pour qui prennent racine et après qui éclosent et qui là sont dans la merveille de... Et donc la récolte est importante, mais ce n'est pas le premier et le seul but. Le premier but, c'est de faire le jardin. Donc ça, c'est par rapport à créer. Les leçons que j'ai apprises et la leçon la plus importante que j'essaye de mettre en œuvre, mais que j'ai du mal parce qu'il faut que je trouve les matériaux et tout, souvent, c'est que ce n'est pas les plantes que je dois nourrir, c'est le sol. Et que il y a beaucoup moins de gens maintenant qui parlent du jardin sur sol vivant. Et pour moi, la compréhension que j'ai du jardin, qui changera peut-être avec le temps, mais c'est vraiment mon but, mon objectif, mon travail principal, c'est de rendre mon sol vivant et qu'après je compose dedans. Donc ça, c'est la partie culture, on va dire, dans le jardin. La deuxième partie qui est aussi importante pour moi, c'est qu'il faut qu'il soit beau. Que ce soit avec des légumes, ou avec des fleurs, ou avec un épouvantail, ou avec la construction d'un compost que j'ai refait récemment, il faut que ce soit beau, voilà. Et que dans n'importe quel endroit du jardin, il y ait une perspective qui me plaise, et donc j'y mets des chaises pour pouvoir y être assise, et aussi pour pouvoir y prendre des photos des oiseaux qui viennent, j'y mets une balançoire, j'y mets un épouvantail, ou des choses... En fait, je m'amuse, ça reste ce lieu comme ma maison, ça reste un lieu où j'ai loisir de faire comme je veux, en jouant avec quelque chose de vivant, plus que la maison c'est un peu vivant, mais dans un temps très très long, les pierres, tout ça, elles s'usent, elles deviennent sable et tout, mais c'est très long, mais le jardin, ça peut être très très court, ça peut être un semis et 3 jours après, pouf, ça sort, et après, pouf, il y a des parasites qui viennent tout manger, ou le soleil qui cogne dessus, ah, qu'est-ce que je fais? Donc il y a une espèce de vie qui se fait complètement en dehors des autres humains, finalement, avec le jardin.
Et que trouve-t-on dans votre potager?
Aujourd'hui, avec le temps qu'on a eu au printemps, ça a été un peu long à se mettre en place. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qui aiment la pluie, comme les framboises, les haricots, toutes ces choses-là. Et puis il y a des choses qui ont mis plus de temps, parce qu'on est aussi en altitude. Donc on est à peu près... Par rapport à la vallée, qui est à 450 mètres en dessous de moi, j'ai à peu près 3 semaines de différence de végétation. Donc quand eux, ils ont des fleurs, c'est 3 semaines après ces fleurs-là, les mêmes fleurs fleurissent ici. Et donc, y a dans mon jardin du bas, qui est le jardin le plus ancien, il y a des plantes pérennes, beaucoup. Donc il y a des arbres qu'il y avait déjà auparavant, c'est-à-dire les prunes, les pruniers. Et puis il y a des fruitiers qui ont été plantés. Alors il y en a qui donnent rien, comme le pommier et le poirier. Mais ils restent, ils sont là. Ils font de l'ombre, ils font des fleurs. Il y a des pêchers. Il y a des cassissiers, de la caseille, donc ce croisement entre la groseille et le cassis. Il y a des framboises. Donc ça, c'est pour, si j'en oublie peut-être, les fraisiers, c'est pas totalement pérenne. Donc ça, c'est pour les pérennes en fruits. Et il y a en pérenne, il y a les, enfin, pas ce qui sont les épices, mais les herbes, le laurier, le thym, le romarin, l'origan, l'estragon, la livèche. Même de la roquette qui pousse de temps en temps, de la menthe, des choses comme ça. Et puis, il y a toutes les choses que je remets chaque année, soit au même endroit, soit dans des endroits différents, ou que j'essaye. Et maintenant, depuis quelques années, il y a en plus, notamment dans le jardin du haut, mais aussi dans le jardin du bas, différents étages, puisqu'il y a des, j'ai commencé à faire des caissons et à remonter un petit peu le niveau de ma terre. À faire comme des espèces de boîtes. Il y en a qui sont hautes, qui font à peu près 80 cm de haut, il y en a qui sont plus basses, à peu près 20 cm, et qui me permettent d'enrichir la terre en fait, avec d'autres apports, plutôt que de la creuser seulement et de la bêcher, de la retourner. Voilà, donc il y a plein de choses en ce moment, c'est plein de verts différents. Il y a moins de au printemps, il y avait énormément de fleurs cette année, on avait les tulipes, les coquelicots immenses qui dépassaient les quelques saules qui sont dans le jardin. Il y avait des fleurs de partout, il y en a beaucoup moins. Maintenant, c'est une espèce de dégradé de différents verts. À l'endroit où ça pousse, en haut, ça pousse beaucoup moins. C'est plus, un peu plus rocheux, on va dire.
Sylvie, comment avez-vous découvert le hameau et la bergerie qui deviendra votre future maison?
Je vais juste vous corriger, en fait, c'est pas une bergerie, c'est une étable.
Une étable.
Non, c'était pas des brebis qui vivaient là, c'était des bœufs. Comment j'ai trouvé? J'ai cherché. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand je suis revenue de ces 4 ans au Guatemala, j'ai décidé, avec l'aide financière de mes parents, parce que j'avais pas beaucoup d'économies, de trouver un lieu à moi. J'ai cherché dans une autre région qu'ici, plus proche de ma famille, mais qui était un lieu plus peuplé. Je voulais quelque chose d'isolé, donc c'était plus compliqué, ou c'était très cher d'avoir un lieu un peu isolé. Dans mes recherches, je suis venue dans la région où je suis, j'ai été hébergée par un ami d'amis pendant ce temps de recherche, je suis passée par des notaires, des agences, etc. Et puis, il y avait chez ces amis-là, il y avait un gars que je ne connaissais pas, qui était en vacances là, et qui avait envie de se balader, donc on s'est baladé ensemble dans les visites. Et on est monté sur le lieu où je suis, qui est un lieu très peu habité, avec des petits hameaux. On a cherché à voir aux endroits où il y avait des choses à refaire. Moi, je voulais quelque chose où les murs soient en place et le toit soit en place. Je voulais pas faire de grosses œuvres. J'ai fini par acheter quelque chose qui était en ruine quand même, parce que j'ai trouvé en même temps quelqu'un qui devait faire les travaux, etc. Mais donc, on a visité plein de choses. Et puis, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais je suis venue ici dans ce hameau au départ, et puis je visais une autre maison, finalement, qui n'était pas à vendre. Donc j'ai fini par acheter cette ruine avec le projet de la refaire, ce qui a pris beaucoup de temps, puisque moi, je n'étais pas capable de remonter. J'étais capable de vider la ruine, mais pas de remonter des murs de pierre qui ont... une partie des murs de pierre qui ont 1 mètre d'épaisseur. Ça, c'était un travail de professionnel avec du matériel. Et donc voilà, c'est ce qui a pris beaucoup de temps avant que j'habite vraiment cette maison.
Racontez-nous, s'il vous plaît, le travail et les travaux que furent les vôtres pour rendre habitable ce lieu dans cet espace protégé. On peut le dire, c'est un cos.
Mais en fait, comme je disais, les premiers travaux, c'était de remonter une partie des murs. Et puis une partie du... Donc c'est une maison qui est faite un peu en L, il y a 2 voûtes, et puis il y avait une partie qui n'était pas sous voûte, qui était sous charpente, et qui elle était tombée. Les voûtes n'étaient pas tombées, donc il y avait encore le toit dessus, mais la charpente était tombée. Donc tout ça demandait du gros œuvre avec des gens de métier, qui avaient du matériel, etc. Au départ, ça devait être la personne qui m'a vendu, puisque l'étable faisait partie de sa propriété, donc il habitait la maison, et on a fait une division cadastrale, il m'a vendu. C'est lui qui devait faire les travaux, puis finalement, pour des tas de raisons, il les a pas faits, il les a mal faits. Donc ça m'a pris du temps de retrouver des gens qui le fassent, c'était des gens d'ici, Donc on fait les travaux alors que j'étais absente, j'étais pendant un certain temps, j'étais basée à Lyon à ce moment-là, mais j'étais au Congo, j'ai travaillé en Afrique souvent sur des missions plus ou moins longues, donc j'avais aucun moyen de contrôle du chantier, voilà, donc ça a été fait finalement, le gros œuvre a été fait, ça a pris, moi j'ai déblayé les choses en 97, 98, je suis partie pour 2 ans à Madagascar. Quand je suis revenue, il n'y avait pas grand-chose qui avait avancé. Donc c'est le moment où j'ai cherché un autre artisan qui a repris vers 2001. Et en 2002, la maison était fermée, hors eau. C'est-à-dire que le toit était fait, les murs, les fenêtres étaient faites, etc. Et la plomberie, l'électricité était faite aussi, mais elle était vide. Donc après, je cherchais des gens pour faire les enduits à la chaux de la maison, les carrelages, les sols, donc j'ai pas tout fait, j'ai fait le haut de la maison d'abord. Le pas de la maison a été fait à partir de 2005, je crois, si je me souviens bien. La terrasse aussi a été construite après, la porte qui est en face de moi où je vois la terrasse, c'était une toute petite fenêtre, il n'y avait pas de terrasse du tout, il y avait du vide derrière. Donc on a ouvert une porte, enfin fait la terrasse, puis ouvert une porte après. Ça c'était le gros œuvre. Avec plus ou moins de difficultés parce que n'étant pas là, même si j'avais été là d'ailleurs, mais il n'y avait pas de maître d'œuvre extérieur. Et toutes les difficultés que connaissent les gens qui se lancent dans un travail avec différents artisans, c'est qu'il faut que les artisans se coordonnent. Alors en général, ils se connaissent, les gens de la région, mais se coordonner, puisqu'il faut toujours qu'il y en ait un qui fasse quelque chose avant que l'autre n'intervienne, ça a pris des retards incroyables. J'ai fini quand même par habiter. Et quand je suis venue habiter, c'était habitable. Il y avait de l'eau chaude. Alors, le hameau n'avait pas d'électricité, ni d'eau. Alors, l'eau, on l'a mise en place avec mon voisin, qui était le seul autre habitant ici. On l'a mise en place avant que la maison soit finie. D'ailleurs, ça nous a beaucoup aidé pour les travaux, pour le ciment et tout. Mais comme j'habite à 2 km de là où existait la conduite des eaux, parce que le hameau n'avait pas été habité depuis 1950, donc au moment où l'électrification et l'amener d'eau sur le Causse a été faite, c'était un endroit inhabité, donc qui n'a pas été équipé ni viabilisé. Et le syndicat des eaux n'avait pas les moyens, pour diverses raisons, de faire une tranchée, de nous amener l'eau au village. Donc on a fait, on a ouvert un compteur à 2 km au hameau le plus proche. Et par un différent concours de circonstances, mon voisin a eu l'occasion de se faire prêter une trancheuse. Et il a fait une tranchée de 2 km. Moi, j'ai payé les tuyaux et on a amené l'eau. On avait un compteur commun, on amenait l'eau. Puis au fur et à mesure que d'autres personnes sont arrivées, on était tous sur le même compteur. Jusqu'à il y a 5 ans, où on a finalement obtenu des travaux qui nous amènent l'eau et l'électricité, enfin qui nous amènent l'électricité et qui nous remettent l'eau, où là maintenant on a chacun notre compteur. J'ai payé pas cher du tout cette ruine, et j'ai à l'époque, en 2002, mis une installation solaire pour la maison, puis c'était nécessaire, il me fallait de l'électricité. La seule chose qui était déjà installée dans ce hameau, c'était le téléphone. Il y avait un fil téléphone. Et donc, j'ai une installation solaire qui m'a coûté beaucoup plus cher que le prix de la ruine, mais qui équivalait à acheter un terrain viabilisé, finalement, où j'aurais eu ces équipements, tout ça. Et ce n'est qu'en 2019, depuis 2019, donc j'ai toujours mon installation solaire, avec des batteries qui sont beaucoup plus fatiguées, qui ont 22 ans maintenant, mais qui continuent, je touche du bois, avoir une certaine autonomie. Et par exemple, depuis mi-mai, j'ai pas utilisé le réseau, donc je l'ai quand j'en ai besoin, mais pour le moment je suis sûrement, et c'est une immense satisfaction. Cette maison, elle a donc une réserve d'eau qui est sous nos pieds et qui me permet d'arroser le jardin en bas, pas le jardin du haut, ça ferait beaucoup, mais c'est, même si financièrement ça c'est pas significatif, mais il y a une immense satisfaction que de produire son électricité, son eau et ses légumes en plus. C'est comme un jeu, parce que j'en ai pas besoin, sincèrement, je peux acheter la nourriture, je peux payer un abonnement EDF, etc. Mais voilà.
Que signifie l'ailleurs, l'autre part, depuis que vous avez votre chez-vous ?
Ben, comme je disais, je suis née dans l'ailleurs, parce que c'était un ailleurs pour nous, on était étrangers hein, là-bas. Donc l'ailleurs, c'est une partie, pour moi c'est mon monde. L'ailleurs et l'ici, les deux sont mon monde. En plus, c'est facile maintenant pour nous, encore une fois, pour nous privilégiés de pouvoir avoir des visas facilement et de décider avec quelques moyens financiers de s'envoler et d'aller ailleurs, mais c'est aussi facile d'avoir une liaison internet qui fonctionne et d'appeler des gens instantanément ailleurs à l'autre bout du monde avec juste une liaison internet ou même un téléphone et un réseau. Donc il est très présent, encore plus présent qu'avant. Avant, quand j'étais enfant, puis même après, quand je suis partie à l'étranger, je suis partie au Guatemala, j'habitais dans un village où on n'était pas la capitale, donc on était loin dans les montagnes, c'était encore la guerre à ce moment-là, et on n'avait qu'une radio dans le village, il y avait une radio où tout le monde entendait ce qu'on racontait si on voulait parler à quelqu'un, et si on avait du courrier, il fallait qu'on le donne au bus, il y avait un bus tous les jours peut-être, sauf le week-end, quelque chose comme ça, qui allait à la capitale, et donc moi à ce moment-là mes parents n'étaient pas en France, ils étaient repartis en Côte d'Ivoire. Donc on s'envoyait une lettre tous les 3 mois, peut-être quelque chose comme ça. Il y avait pour l'urgence, ils auraient pu appeler, je ne sais pas comment, par radio ou quoi, le bureau de l'ONG à la capitale, qui, eux, par radio, m'auraient envoyé quelque chose. Mais c'est tout, c'était... Et mon enfance en France, à un moment, était séparée de mes parents étaient encore en Côte d'Ivoire, j'étais dans la famille, et c'était pareil, et eux, s'ils voulaient, ils habitaient en brousse, en Côte d'Ivoire, et donc ils appelaient à la radio s'il y avait vraiment une urgence. Donc on ne se parlait jamais, on s'écrivait. Donc maintenant c'est complètement différent, donc il est beaucoup plus présent aujourd'hui, isolée comme je suis, en hiver, je suis la seule à habiter le hameau. Je parle autant à des gens à l'étranger qu'en France. On a beaucoup de communication, un webinaire ou de travail, des choses comme ça. Voilà, c'est un peu tout est présent. Donc voilà, je ne sais plus quelle était la question par rapport à l'ailleurs, mais voilà, l'ailleurs il fait partie de ma vie. Et, le seul inconvénient de cet ailleurs qui fait partie de ma vie, c'est que je n'ai pas d'animaux domestiques, parce que je ne peux pas les laisser et partir.
C'était le fil du fer de Sylvie Bodineau sur Radio FM Plus 91. FM, dans le prochain numéro du Fil du Fer, nous parlerons de son parcours d'animatrice éducatrice à anthropologue, étudiant le retour des enfants soldats d'Afrique noire à la vie civile.